Bonjour à tous. C'est une joie encore d'avoir ce défi de
Oui,
trouver la volonté de Dieu dans sa parole à chaque prédication. Et ce matin encore, je remercie le Seigneur d'avoir fourni des prédications depuis plus de 40 ans maintenant. Et c'est à sa gloire. Et ce matin, mon message s'intitule « Du virtuel au présentiel ». C'est un mot qui est entré dans notre vocabulaire depuis plus d'un an maintenant, le mot présentiel. Moi, j'avais jamais entendu ce mot-là avant. Et aujourd'hui, on peut se positionner dans une certaine espérance, un certain espoir de retrouver ce présentiel à travers nos réunions d'église après Covid. Donc, ce matin, on va essayer de se projeter un petit peu. De regarder vers devant. Nos réunions d'église après Covid, comme avant ou mieux qu'avant. Ça, c'est aussi un défi pour nous. Je pense qu'il y a eu plusieurs idées ce matin dans l'orientation qui ont rejoint un peu cette idée-là. Et donc, nous poursuivons notre parcours de la première lettre aux Corinthiens, le chapitre 11. Vous vous rappelez que ce chapitre, il est en deux parties. On avait vu l'histoire du couvre-chef la dernière fois. Et là, on va aborder ce matin les versets 17 à 34. Alors d'abord, je ne vous apprends rien en vous disant que depuis un an, nous sommes tous frustrés de ne plus avoir de réunion d'église normale, présentielle. Ce serait inquiétant d'ailleurs si ce n'est pas, si ce n'était pas le cas, si nous n'étions pas un peu frustrés. Je pense que ça devrait nous alerter si on n'avait pas cette frustration. Au niveau du culte dominical, la visioconférence a permis de sauver les meubles et de nous voir chaque semaine. Et ça, c'est franchement une grâce infinie. Je ne sais pas si on mesure cette joie de voir les visages, de pouvoir parler, de pouvoir entendre des chants, des prédications, des louanges. Alors, merci encore à tous ceux qui ont géré cette nouvelle technologie, parce que, en tout cas pour ma part, je suis pas doué là-dedans. Et merci aussi pour la fidélité de chacun et la créativité, les lettres de nouvelles, les messages divers et variés, etc. Et les prières. Les autres rencontres, à part le culte, ont disparu. L'étude biblique, la rencontre de prière et de maison, la Sainte-Cène, des réunions d'évangélisation, et j'en passe. Et certains frères et sœurs n'ont pas pu s'adapter à Zoom. Ça, c'est un sujet de prière aussi. C'est une difficulté qu'il faut reconnaître. Mais en somme, il faut souvent être privé de quelque chose pour en apprécier la valeur. Il faut souvent être privé d'une réunion avec l'assemblée pour se dire, mais qu'est-ce que c'était bien, finalement. Et cette année de pandémie aura-t-elle fait naître en nous le désir de profiter plus largement de ces moyens de grâce que représentent les réunions d'église en présentiel? Alors, c'est une bonne question pour nous, sachant que la vaccination nous permet d'espérer un retour à la normale, peut-être dans les mois qui viennent. Alors, quelle est notre perspective après Covid? Peut-être n'y avez-vous pas encore pensé, parce que vous êtes en plein dedans. Et que, bon, ça fait quand même plus d'un an maintenant, donc on trouve le temps un peu long. Mais est-ce que nos réunions d'église, après Covid vont être comme avant ou mieux qu'avant? Mieux qu'avant en qualité, en spiritualité, en fraternité, en assiduité, etc. Alors, les Corinthiens, dans ce chapitre 11, nous font comprendre un peu cet enjeu à leur façon, sans le vouloir peut-être. Il n'était pourtant pas confronté à une épidémie de Covid. J'ai un petit pavé là qui me gêne. Voilà. Bien qu'il y ait eu parmi eux beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs étaient morts, nous dit le verset 30 de ce chapitre 11, et on verra pourquoi tout à l'heure. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Nous l'avons vu au chapitre 1er. Ils avaient été déclarés saints et justes par la grâce de Dieu à travers la foi en Jésus-Christ. Donc parfaitement chrétiens, nés de nouveau, ils avaient été comblés de toutes les richesses spirituelles, la parole de Dieu, la connaissance, le témoignage de Christ solidement établi parmi eux. Il ne leur manquait aucun don. Ils étaient même dans l'attente du retour du Seigneur, nous dit le texte. Et pourtant, que de problèmes, que de réunions qui n'atteignaient pas leur objectif. Au point que Paul leur dit, au chapitre 11, verset 17, et il reprend cette idée au verset 22, en faisant la remarque suivante, « Je ne peux pas vous féliciter, car vous vous réunissez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et ça, c'est l'expression qui m'a interpellé dans cette prédication. Et au lieu de les faire grandir, les réunions les faisaient reculer. En fait, au-delà des réunions, c'était les Corinthiens qui avaient une attitude inadaptée. Ce n'était pas forcément les réunions qui étaient mal faites, encore que peut-être qu'elles étaient mal faites, mais il y avait aussi leur attitude qui n'était pas adaptée. Et souvent, vous aurez remarqué que ce sont les gens qui créent l'ambiance d'une réunion. Même si un dirigeant est plein de bonne volonté, s'il y a un participant qui casse l'ambiance ou qui a une attitude charnelle, ça ne va pas édifier le corps. Et donc, nous sommes tous concernés par notre impact dans une réunion, notre bénédiction dans une réunion, tout ce qu'on peut apporter de bien. Leur réunion d'église posait donc un problème de plus. On a vu des problèmes d'immoralité sexuelle, etc., toutes sortes de choses. Et en particulier, donc, il y a un problème au niveau de la réunion autour du repas du Seigneur, autour de la Sainte Cène. Les réunions d'église ont pour but de nous rendre meilleurs. Je ne sais pas si on a ça quelque part dans la tête. Quand on va à une réunion, est-ce qu'on se dit qu'en sortant de la réunion, normalement, on devrait être meilleur qu'en y rentrant, parce que il y a le processus de sanctification qui est voulu par Dieu. Et si on fait des réunions d'église, ce n'est pas comme ça pour faire joli sur un calendrier ou pour occuper le temps. C'est vraiment pour nous sanctifier, pour nous équiper, pour nous rendre inébranlables, pour nous rendre semblables à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, si nous ne participons pas aux réunions d'église, alors que nous le pouvons, ces réunions ne peuvent pas nous rendre meilleurs, cela va de soi. Les premiers chrétiens de Jérusalem l'avaient bien compris quand ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On trouve ce texte dans Actes 2, vous le connaissez certainement bien. La croissance de l'Église n'était-elle pas liée finalement à la qualité de ces réunions d'Église? Ils se formaient, ils vivaient la communion fraternelle, la koinonia en grec, ils vivaient la Sainte Cène, ils s'engageaient dans la vie de prière, ils louaient Dieu ensemble. Mais notez qu'il n'est pas question de réunion d'évangélisation, mais visiblement, leur réunion plaisait à Dieu et les réunions d'église les rendaient meilleures et efficaces sur le plan spirituel, non seulement pour leur croissance personnelle, mais pour la croissance de l'église, si j'en crois la fin de ce texte, où ça semble être un peu la conclusion, la conséquence de ce vécu dans l'Esprit Saint. C'est que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, mes amis. Vous vous rendez compte que Dieu permettait des conversions chaque jour. C'est fantastique. Et nous, parfois, on passe une année, deux années, trois années, quatre années, cinq années sans voir une seule conversion. Donc, il y a quelque chose à trouver à travers toutes ces expériences chrétiennes. Mais suffit-il d'instaurer des réunions au calendrier pour devenir meilleur? Les Corinthiens avaient des réunions, peut-être par habitude, au bout d'un certain temps, mais ils se réunissaient non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire, dit l'apôtre Paul. C'est un peu comme si vous preniez des leçons de conduite chez l'école sans vous améliorer. Et vous arrivez à l'heure du permis de conduire, vous n'êtes pas prêt, parce que c'est du temps perdu, ça n'a servi à rien. Je ne sais pas comment vous êtes allé dans ces cours, mais finalement, ça ne sert à rien. Alors, cela nous interroge. Est-ce que nos réunions atteignent leur noble objectif? Chaque réunion d'église n'est pas, pas une activité d'association, c'est un moyen de grâce qui a un objectif. Et si on passe à côté de cet objectif, on a perdu son temps. Alors imaginez par exemple une réunion de prière où l'on passerait son temps à partager les sujets sans entrer dans le vif de la prière. C'est peut-être que le cœur n'y est pas. Imaginez un culte sans adoration. Cela devient un spectacle où l'on vient pour recevoir plutôt que de donner. Et ça, c'est tout le contraire du culte, puisque le culte, c'est offrir des sacrifices. Farida nous a rappelé Romains 12, offrir son corps en sacrifice, offrir ses louanges, offrir sa reconnaissance, offrir son temps, offrir ses biens, etc. Imaginez une étude biblique où l'on passerait son temps à débattre des opinions sans creuser la parole de Dieu. Imaginez des réunions de conseil sans réflexion ni décision. Imaginez des réunions d'évangélisation sans prédication de l'évangile ni conversion. Imaginez des saintes scènes censées être des repas de famille où une grande partie du corps ne serait pas présente, où des tas de choses viendraient détourner nos regards de Jésus et traiter avec légèreté ce mémorial. Qu'est-ce qui cloche chez les Corinthiens? Au verset 18, Paul dit d'abord, « Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, dit-il. » Alors, c'est un problème qu'on a déjà vu, vous qui étiez là lorsque j'ai parlé du premier chapitre. Il s'agit même de rivalité, c'est-à-dire un esprit de parti. Moi, je suis de un tel, moi, je pense que, etc. Et il y a une exhortation qui est traduite par Alfred Kuhn, qui est assez dynamique dans la version Parole vivante, où il exhorte en disant « Vivez ensemble en bonne harmonie, accordez vos pensées et vos paroles, visez le but commun, et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Ne laissez pas de scission s'introduire parmi vous. » Jérémie a évoqué l'idée tout à l'heure. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez de voir les choses du même point de vue et adoptez une attitude commune afin de former une unité de combat spirituel indivisible. Quelle belle image, quelle belle traduction, n'est-ce pas ? Qu'on finisse par former une unité de combat spirituel indivisible. Alors, pour notre Église, nous aurions pu nous encourager à élaborer un projet d'Église pour les années à venir qui convienne à tous, qui soit fédérateur, stimulant, un plan d'action collective qui permette d'atteindre notre monde avec l'Évangile et dans lequel chaque réunion a sa raison d'être et où chacun trouve sa place, à l'image un petit peu d'un orchestre ou d'une chorale qui choisit de jouer une partition. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Jésus nous demande de nous accorder dans la prière, l'idée de s'accorder dans la prière, d'être d'un commun accord, de ne pas prier chacun de son côté, de partir dans un sujet puis dans un autre, mais d'être vraiment dans une harmonie, le mot qui est utilisé, c'est le mot « symphonie ». Donc, c'est assez intéressant, cette image musicale où on joue une partition et que chacun a son instrument dans l'orchestre ou dans la chorale. Alors, ce problème de division se retrouve même à la Sainte Cène. Vous allez me dire, mais comment, de quelle manière? Le problème absolu, nous dit Paul dans ce chapitre au verset 20, il dit ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Alors, c'est peut-être une habitude, mais visiblement, les Corinthiens ont manqué le but. Ils se réunissent. Bon, très bien, on a prévu de se réunir tous les temps du mois ou temps de l'année. Mais comment se manifeste la division au niveau de la scène à Corinthe? Cette scène qui devrait être l'expression symbolique de l'unité du corps autour de son Seigneur et Sauveur, vous êtes d'accord avec ça, je pense, tout le corps devrait être là, sauf cas de force majeure. D'autant que Jésus a promis d'être au milieu de nous, ce qui nous échappe plus ou moins parfois. Je me demande parfois si on est bien conscient que le Seigneur est dans la pièce, que le Seigneur est dans notre cœur, que le Seigneur participe à la Sainte Cène. Alors, à Corinthe, c'était plutôt une réunion de divers égoïsmes. Au verset 21, Paul dit, gardez que vous vous mettez à table. Je souligne que c'est un repas, évidemment. Chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Ils étaient censés partager leurs provisions, un peu comme nous le faisons durant le repas fraternel. Chacun apporte un repas, pas trop chiche, de façon à ce que si quelqu'un n'a pas de repas ou si quelqu'un vient à la dernière minute, eh bien, on met tout en commun et on partage. Et c'est des moments fantastiques qui nous manquent beaucoup. Et là, à Corinthe, bon, c'était la fin de la journée. Ils avaient la dalle, comme on dit. Leur estomac et leur ivresse passent avant le Seigneur et les frères. Ils ont oublié le but principal de cette réunion, qui n'est pas de se nourrir, mais qui est un mémorial centré sur Jésus et les autres membres de l'Église. Et on l'appelle souvent la communion. Alors, Paul va leur suggérer, leur conseiller au verset 33, de s'attendre mutuellement pour manger, de ne pas se précipiter sur leur panier de provisions, au risque qu'il ne reste rien après pour les autres. Et puis, on pourrait dire qu'il y a une division un peu socio-économique. Vous savez qu'à Corinthe, il y avait beaucoup de pauvres, il y avait très peu de gens qui avaient des moyens importants. Et alors, eux, ils ont des provisions, ils les consomment, ils ont faim. Alors, moi, un peu comme ils se disaient, moi, je suis de Paul et d'Apollos, moi, je mange mon panier, je mange mon casse-croûte. Et puis, d'autres n'ont rien et ont faim. Et au verset 22, Paul les interpelle en disant « N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire ? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien ?» Alors comment considérons-nous les autres dans la Sainte Seine ? Est-ce que quand on prend la Sainte Seine, on est un peu nombrilique, c'est-à-dire on est affligé sur nos péchés, sur notre personne, nos besoins ? Seigneur, fais ci en moi, viens en moi, remplis-moi. Mais est-ce qu'on pense, est-ce qu'on considère les autres comme étant des frères et sœurs respectables, aimables, que l'on a envie de servir? Faisons-nous des différences dans nos saintes scènes? Je prends une anecdote toute simple. Est-ce que nous, à côté de qui nous nous mettons généralement? Est-ce que nous nous mettons toujours à côté des mêmes personnes, comme dans un clan de copains, qui est bien d'ailleurs, c'est très beau un clan de copains, mais à la Sainte-Seine, est-ce que nous changeons de place de temps en temps pour apprécier des personnes que nous connaissons moins ou leur dire, voilà, je me mets à côté de toi parce que je t'apprécie, je t'aime, et j'ai envie de partager mon repas avec toi et avec les autres. Alors Paul dira au verset 34, ben, Si quelqu'un a faim, eh bien, qu'il mange chez lui avant de venir à la scène, parce que le but n'est pas de se jeter sur la nourriture parce qu'on a trop faim. Paul rappelle le vrai contexte de la scène. D'abord, il rappelle que c'est un repas fraternel. Notons que le mot « scène », qui est un mot d'origine latine, qui veut dire le souper, ne figure pas dans le texte biblique. Il s'agit d'un vrai repas, le mot grec, pour ceux qui s'intéressent, taipnon, au verset 20, veut dire repas, festin, banquet. Et son dérivé qu'on trouve au verset 25 signifie après avoir soupé. Donc il s'agit d'un vrai repas. Un vrai repas qui est institué par Jésus pour encadrer le mémorial du pain et de la coupe. Un vrai repas qui est calqué sur le vrai repas de la Pâque juive, où l'on consommait de l'agneau rôti, des herbes amères, et bien sûr, où on avait ce fameux pain sans levain et la coupe, ou diverses coupes même, qui faisaient le tour de la table. C'est un vrai repas autour d'une table qui est tournée vers l'avenir. Ça, c'est intéressant, parce qu'on n'y pense pas toujours. On pense que c'est un repas, bon, on mange ensemble, comme on mangerait chez nous, et puis, à un moment donné, alors tout de suite, on devient solennel et ça devient sacré, on prend le pain et la coupe. Non, le repas fraternel est tout aussi sacré, on va dire, tout aussi mis à part que le pain et la coupe, parce qu'il représente une sorte d'anticipation du festin des noces de l'agneau. Et en Luc 22, 30, il nous est dit ainsi, c'est Jésus qui parle, Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. C'est aussi un vrai repas nommé agapé, qui veut dire amour, autour d'une table, dans la chambre haute, c'est-à-dire c'est une pièce à part. Ce n'est pas seulement un mémorial qu'on aurait pris au temple ou à la synagogue, mais c'est une pièce à part qui est meublée en conformité avec le besoin de cette réunion, une table, des divans, puisqu'on se couchait sur des divans, on se mettait sur le coude et on n'était pas assis sur des chaises au temps de Jésus. C'était culturel, évidemment. Il ne s'agit pas de refaire la même chose. Ça, j'aimerais pas trop manger avoir, avec le coude sur le côté comme ça. Je préfère être assis, effectivement. Et c'était un vrai repas qui a souvent disparu des églises en raison des abus causés par le péché, à l'image des Corinthiens. Alors, on a parfois remplacé le vin par du jus de raisin pour éviter l'ivresse, mais c'est pas pour ça qu'on a supprimé la coupe. Donc, fallait-il supprimer le repas? Paul ne l'a pas fait, visiblement, mais il invite ceux qui ont trop faim à prendre un encas à la maison avant de venir, parce que ce repas n'est pas n'importe quel repas. Ce n'est pas un repas ordinaire où on sort les boîtes en plastique avec la salade de riz et de pâtes ou la bouteille d'eau et le fromage et les crudités et je ne sais quoi d'autre. C'est un repas fraternel, c'est un repas agapé, c'est un repas, on pourrait dire, saint, parce que Jésus est au milieu de nous et nous sommes son corps. En tout cas, Paul n'a pas supprimé ce repas, mais il invite donc ceux qui ont trop faim à prendre un encas à la maison avant de venir. Au cœur de ce repas, il y a, comme vous savez, ce fantastique mémorial, le partage du pain et de la coupe, qui est c'est intéressant parce que autant le repas est tourné vers l'avenir, autant ce mémorial est tourné vers le passé, du moins en partie, parce que vous verrez qu'il y a un élément eschatologique tout à l'heure, dans un moment. Au verset 23 et 24, Paul rappelle ce qui s'est passé ce soir-là. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il s'agit bien d'un mémorial. Faites ceci en souvenir de moi. Et au verset 25, de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. Au verset 26, il dit, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà notre petit élément d'eschatologie par rapport à la fin des temps. C'est un rappel permanent à travers ce geste qui est en plein accord avec l'aspect eschatologique du repas fraternel. Vous voyez l'harmonie du symbolisme qui est quand même très intéressante quand on commence à se pencher dessus. Il y a un seul pain partagé entre tous. On a la coutume de Jésus a rompu le pain et ensuite il a distribué le pain. Il y a une seule coupe qui circule, qui est symbole d'unité. Alors même quand il y a des petits verres, il y a quand même le symbole de la coupe qui maintient tous ces petits verres, qui montre à la fois l'unité et la multiplicité du corps de Christ. Bon, certains pourraient y trouver, ça pourrait être gênant pour eux, je ne sais pas. Il faut voir, mais en période de pandémie, c'est vrai que ce n'est pas très sage peut-être de prendre une coupe et de la faire passer, mais ça, c'est autre chose. Et le pain, vous savez que le pain représente le corps de Christ qui est offert, et la coupe, l'alliance de sang, là, je ne vous apprends rien. Et puis, il y a ce lavement des pieds dont on parle dans nos assemblées Charis, et Paul ne parle pas du lavement des pieds. Tiens, pourquoi donc? Seul l'apôtre Jean, le disciple que Jésus aimait, en parle. En revanche, il ne parle pas de pain et de la coupe. Le pain et la coupe n'auraient-ils pas existé? Non, bien sûr. Matthieu, Marc et Luc parlent de la coupe et du pain, et pas du lavement des pieds. Jean est-il un hérétique ou met-il en avant un aspect que les autres évangélistes ont assimilé peut-être un geste culturel d'hospitalité, ou alors peut-être comme Pierre n'ont-ils pas compris, parce que Pierre, il fonçait toujours le premier, il démarrait au quart de tour, et non, mais Seigneur, jamais tu me feras ça, toi le maître, non, mais Jésus lui dit, tu comprendras dans la suite. Et si ça se trouve, connaissant le caractère de Pierre, bon, lui, il a dit ce qu'il pensait tout de suite. Et tous les autres, ils ont dû se dire, « Oula, le Seigneur nous lave les pieds, qu'est-ce qui se passe là ?» Ils ont dû se poser plein de questions, j'imagine. Et si ça se trouve, ils n'ont pas osé être aussi francs que Pierre en disant, « Mais nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris ce que tu as fait là, parce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce symbole. » Jésus a pratiqué ce geste pendant le repas. Et non à l'arrivée des disciples dans la maison, ce qui était l'usage normal d'habitude. Et le maître a lavé les pieds des disciples, ce qui ne s'est jamais vu. C'est une tâche qui est réservée aux serviteurs. C'est aussi un geste d'amour qui s'accorde parfaitement avec le repas d'agapé, puisque Jésus mit le comble à son amour pour eux. C'est une phrase assez mystérieuse, parce que franchement, le comble de son amour, on aurait envie de dire, c'est la croix. Et lui, il dit qu'il met le comble de son amour en venant laver les pieds de ses disciples. Il y a un peu de mystère là derrière. Et c'est aussi un geste de communion, puisque Jésus dit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi, tu n'auras pas de communion avec moi. » C'est intéressant. Alors, quand on revient dans Jean 13, au verset 15, Jésus dira, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Au même titre qu'il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi », il a dit « Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Et les Corinthiens, alors, est-ce qu'ils étaient trop orgueilleux pour envisager un tel abaissement? On sait qu'il y avait un problème quelque part dans leur cœur à ce niveau-là. Alors, que représente ce symbole en plus de l'humilité et du service? C'est vrai que Jésus, qui était censé être servi, est venu pour servir. Mais ça va beaucoup plus loin, puisqu'on verra que ça concerne le pardon quotidien de nos péchés, la purification quotidienne de nos péchés, qui est un symbole, cette fois-ci, non plus tourné vers l'avenir, non plus tourné vers le passé, mais un symbole tourné vers le présent. Paul n'a-t-il pas évoqué ce sujet en 1 Corinthiens, cette histoire de purification? Dans 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8, Paul dit « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, le festin, le banquet, le repas fraternel, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Paul fait allusion à la Pâque juive. Avant la Pâque, c'était le grand nettoyage de printemps dans les maisons. Il ne devait plus rester une seule trace de levain dans les maisons, et il faisait ça avec beaucoup de soin. Et on allait manger ensuite des pains sans levain lors du repas. Pas question de laisser la moindre trace de levain pendant la Pâque juive. Et comme il fallait se débarrasser du levain représentant le péché, le lavement des pieds permet de se débarrasser symboliquement de la poussière qui s'attache à nos pieds, de nos péchés quotidiens qui s'attachent à nous si facilement, comme nous dit l'Écriture, bien qu'ayant été lavés une fois pour toutes. Et dans Jean 13, Jésus, au verset 9 et 10, nous dit, enfin c'est Pierre qui lui dit, « Seigneur, mais alors, tu veux me laver les pieds, mais pas seulement les pieds, Seigneur, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » C'est donc un symbole de pureté. Alors, résumons-nous. J'ai fait un petit schéma pour résumer tout ça. Le repas du Seigneur a donc trois aspects, selon nous, selon la parole de Dieu. D'abord, le repas fraternel, qui représente l'amour agapé, avec la fraternité, la famille, le partage, la diversité. Et d'ailleurs, quand je dis famille, n'oublions pas non plus que la Pâque juive réunissait les familles et que les enfants étaient là et que les enfants posaient des questions et que c'était fait exprès pour leur expliquer « Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ?» Eh bien, voilà pourquoi on fait ça. Parce que le Seigneur, il nous a délivrés de l'Égypte, etc. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi réfléchir, pourquoi pas intégrer au moins un moment les enfants pour leur expliquer, pour leur dire « Vous avez des questions ?» ou je ne sais pas, c'est une simple réflexion. Et puis, il y a aussi, évidemment, la communion, l'unité qui est symbolisée par le pain et la coupe, représentant le corps et le sang de Jésus. Et puis, il y a la notion de pureté, de sainteté, de pardon à travers le lavement des pieds, sachant que la communion fait référence au passé, de ce que Christ a accompli pour nous. La pureté, ça concerne vraiment le présent, ce levain qui se loge un peu partout, sans qu'on le veuille nécessairement. Et puis, l'amour agapé, le repas fraternel, qui tourne déjà vers l'avenir, sachant que j'ai dit que même les Corinthiens étaient dans l'attente du retour du Seigneur. Alors, il y a un autre triangle qui mérite d'être présenté, si j'ose dire, c'est un avertissement qui est le dernier enseignement de l'apôtre dans ce chapitre 11, les versets 27 à 32. Alors, je vous avoue franchement que je trouvais parfois un peu relou, comme on dit aujourd'hui, de citer ce passage à chaque sainte cène. Des fois, je me disais, mais pourquoi pas prendre aussi les passages dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, etc. Et à chaque fois, ça me paraissait un peu lourd, parce que c'était un passage qui fait un peu peur et qui pourrait plutôt nous donner envie de nous abstenir. Mais ce n'est pas du tout l'intention de Dieu, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Là encore, il faut relier ce texte au contexte corinthien. Les Corinthiens ont pris la scène à la légère comme un acte ordinaire, méprisable, profane. Ce n'est pas votre cas, justement, si vous éprouvez une certaine crainte. Et c'est plutôt bon signe, je dirais, d'aborder la Sainte Cène avec une certaine crainte. Alors, les Corinthiens n'étaient absolument pas dans un état d'esprit adéquat pour l'occasion. Il n'y avait ni amour, il n'y avait pas de partage, il n'y avait pas d'unité, il y avait des divisions, il n'y avait pas de pureté, il y avait même de l'ivresse. Ils ne discernaient ni le corps du Seigneur à travers les symboles, ni le corps du Seigneur à travers l'Église, et encore moins la présence du Seigneur par l'Esprit Saint au milieu d'eux. Vous voyez, il y a trois problèmes là de discernement du corps. Et au verset 27, Paul dit « C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » C'est cette phrase qui me semblait tellement lourde à entendre à chaque fois. Et pourtant, c'est justifié dans le contexte corinthien. C'est un affront envers Christ et son Église que d'aborder une réunion de Sainte Cène comme les Corinthiens l'ont fait. Au verset 28, au début du verset, donc, Paul dit, première chose à faire, que chacun donc s'examine lui-même. C'est ce qu'on rappelle à chaque fois, je dirais, avant de prendre la Cène. On pourrait dire qu'il se prépare en son cœur, qu'il ne vienne pas à la Sainte Cène, peut-être sans passer un peu de temps dans la prière, dans la réflexion, dans la confession de ses péchés, etc. Et puis, ce n'est pas qu'il faut se priver, c'est au verset 28, deuxième partie du verset 28, « Et qu'ainsi, ils mangent du pain et boivent de la coupe. » C'est une invitation, ce n'est pas une privation. Nous n'avons pas à nous priver, mais au contraire, profiter de la Sainte Cène pour prendre conscience de notre péché, de nous examiner, de nous pardonner mutuellement, de nous purifier de ce levain, de ce vieux levain, de ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Et au verset 31, il dit, si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais là encore, Dieu a une intention de grâce et de bienveillance. Verset 32, mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc, on voit bien ici son aspect pédagogique, si j'ose dire, d'une correction du Seigneur pour notre bien, pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, sachant que nous avons été en quelque sorte jugés à la croix avec le Christ, et il nous corrige aussi avec des maladies, des infirmités, même la mort. Et c'est ce, si les Corinthiens n'avaient pas le Covid, ils avaient des problèmes de maladies, d'infirmités, et même des décès dans l'Église, qui étaient la conséquence de leur attitude vis-à-vis de la Sainte Cène. Mais attention, ce n'est pas parce que je suis malade ou infirme que j'ai péché à la Cène. Il faut faire attention de ne pas se laisser non plus accuser par le diable, parce qu'il n'y a pas forcément une relation l'un et l'autre. Alors, quelques questions pour conclure et pour alimenter un peu notre réflexion. Nos réunions avant Covid ont-elles toujours atteint leur objectif? Ça, c'est à nous de réfléchir. Il nous est peut-être arrivé de rentrer déçus à la maison et de ne pas revenir à cette réunion en disant bon, c'était, franchement, je n'ai pas été édifié, ça s'est mal passé ou on est passé à côté du but. Bon, peut-être ça vous est arrivé, ça. Comment l'Église pourrait améliorer ses réunions? C'est encore une bonne question. Voyons-nous les réunions comme des moyens de grâce, ou plutôt comme des options, des choses qui ne servent pas forcément, ou en tout cas à moi qui ne me serviront pas? En avons-nous profité pleinement? Ou les avons-nous délaissées? Ou avons-nous des contraintes peut-être, des empêchements? Que pourrait faire l'Église pour nous aider dans ce qui nous empêche d'assister aux réunions de l'Église? Nos réunions après Covid seront-elles comme avant, ou encore mieux qu'avant? Il ne s'agit ni d'entrer dans la réunionnite, ni d'imaginer que l'on va pouvoir atteindre 5 objectifs lors d'un culte hebdomadaire. Quand je dis 5 objectifs, je pense évidemment à l'adoration, à l'enseignement, à la Sainte Cène, à la communion fraternelle, à la prière d'intercession, à l'évangélisation, je ne sais pas, il y en a plus que 5. Peut-être que là, il nous faut un peu de sagesse aussi pour bien suivre un but et l'atteindre vraiment dans chacune des spécificités de la réunion. Sommes-nous dans une perspective de progrès constant? Le texte nous dit bien devenir meilleur. Les Corinthiens ne se réunissaient pas pour devenir meilleurs. Alors, ça veut dire, nous, on a envie de se réunir pour devenir meilleurs, pour plaire à Dieu. Sommes-nous dans une perspective d'examen de conscience, pas seulement à la Sainte Cène, mais si je vais à une réunion de prière, est-ce que vraiment j'ai envie de prier, quoi? Ou est-ce que c'est autre chose qui m'intéresse? Quand avons-nous participé au repas fraternel pour la dernière fois? Répondez-vous de la même façon à une invitation à un repas de famille et à une invitation au repas du Seigneur? Faites-vous une différence? Et pourquoi, à votre avis, faites-vous une différence entre les deux, alors que nous formons la famille de Dieu? Sommes-nous unis ou divisés dans nos objectifs, notre projet communautaire? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Le lavement des pieds pose-t-il problème à certains? Est-ce que vous voudriez en parler? Ça serait intéressant d'ouvrir nos cœurs et de dire, voilà, moi, ça me pose franchement un problème. Comment on fait? Moi, j'ai pas envie de me priver du repas fraternel, de la communion des frères, mais il y a un truc qui coince et voilà, il faut en parler et on va étudier la question. Alors, je vous propose en bibliographie, mais il y en a beaucoup d'autres de livres, mais un petit livre qui a été écrit par notre frère Florent Varac et Paul Klowitter aux éditions Clés. C'est une édition très réputée de la région qui est très recommandable, c'est pas Greg qui va me contredire, qui s'appelle « Le repas du Seigneur » et qui reprend en détail les 3 symbolismes dans la scène, dans le repas du Seigneur. Donc, je vous laisserai sur un verset que j'aime bien, dans le psaume 133, versets 1 et 3. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alors, Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, on te remercie vraiment pour la révélation de ta parole, pour tous ces symbolismes qui nous permettent de garder le cap des réunions d'église, de garder le cap de ce repas du Seigneur qui nous est si cher et qui est représenté par tous ces symboles qui chacun ont une importance capitale pour notre vie avec toi. Seigneur, merci aussi pour cette promesse que c'est au milieu des frères, c'est dans l'Église que tu envoies ta bénédiction. Et nous ne voudrions pas, ni les uns ni les autres, être un obstacle à la bénédiction en gardant du vieux levain, en gardant effectivement des domaines dans notre vie qui ne sont pas sous ton contrôle, sous le contrôle de ton Saint-Esprit, en gardant des attitudes peut-être charnelles comme les Corinthiens, je ne sais pas, mais Seigneur, nous voulons entrer dans une perspective de meilleur, de progrès, de sanctification, d'amélioration pour que, effectivement, les rencontres d'église qui vont bientôt reprendre, peut-être dans quelques mois, puissent te glorifier, te mettre en avant, fortifier ton église et peut-être trouver aussi la faveur du peuple non-croyant qui est autour de nous et que tu puisses ajouter à l'église, peut-être même chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois ou chaque année, des âmes sauvées, Seigneur. Et Seigneur, on veut entrer dans cette perspective parce que c'est là qu'est ton plan, c'est ce que tu veux, Seigneur. Et on se sent bien démuni, bien faible, et pourtant nous avons tout. Nous avons été comblés comme les Corinthiens. Enfin, il y a peut-être des dons qui semblent manquer encore, mais tu peux y pourvoir encore aujourd'hui, Seigneur. Et nous avons tous été comblés, nous avons tous été lavés de nos péchés, Seigneur. Et nous avons besoin simplement de nous laver de ce péché quotidien, même en le symbolisant dans cette sainte scène. Seigneur, on te remercie vraiment pour ce plan merveilleux que tu as pour ton Église et on prie pour ton Église, quelle qu'elle soit dans cette ville, dans cette région, pour que tu la bénisses, qu'il y ait vraiment des bénédictions en leur sein et que ton nom soit glorifié en toutes choses, que le nom de Jésus soit exalté, glorifié et connu par le plus grand nombre, et que son règne soit vraiment effectif dans chacune de nos vies, Seigneur. En son nom. Amen.